vitriol calciné, pierre infernale, régulus antimony, mercure vif argent.
Il y a ici de quoi empoisonner Paris en quelques heures.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. L'affaire des poisons a-t-elle révélé tous ses mystères? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Agnès Walk. Aujourd'hui, quatrième épisode, la marquise de Montespan.
Femme voisin, levez-vous. Vous êtes reconnue coupable d'avoir distillé et vendu divers poisons, fait célébrer des messes noires, volé et égorgé des enfants en bas âge. Par ces motifs, la cour vous condamne à être brûlée vive en place de grève, après avoir fait amende honorable devant Notre-Dame de Paris.
Le 19 février 1680, sans grande surprise, la voisin est condamnée à mort, ce qui ne l'empêche pas le soir même de souper et de trinquer joyeusement avec ses gardes. C'est du moins ce que raconte la marquise de Sévigné. La voisin mangea avec eux à minuit par fantaisie, elle but beaucoup de vin, elle chanta 20 chansons à boire. Un récit sujet à caution qui accrédite l'image diabolique de la voisin. Dans le même sens, on dira que 3 jours plus tard, avant son exécution, la femme refusa les derniers sacrements. Et lorsque la voisin a été conduite devant Notre-Dame, la marquise de Sévigné affirme qu'elle repoussa le crucifix qu'on lui tendait et refusa de faire amende honorable. Une vraie sorcière, en somme. Conduite ensuite place de grève, encore une fois pleine de monde, la voisin, en hurlant, refuse de sortir de la charrette. On la comprend. Le bourreau, finalement, l'enchaîne sur le bûcher, couvert de bottes de paille. Il y met le feu et la malheureuse est brûlée vive.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Alors que la majorité des hauts personnages de la cour interrogés par la chambre ardente sont finalement innocentés, on pourrait penser que la mort de la voisin marque le dernier acte de l'affaire des poisons. En réalité, l'affaire va connaître un rebondissement inattendu. Des points dans les aveux de la voisin étaient restés obscurs. Elle avait déclaré que quelque temps avant son arrestation, elle avait essayé, mais sans succès, de se rendre au château de Saint-Germain, où réside alors la cour, pour remettre au roi, en main propre, un placet, c'est-à-dire un papier avec un message. Après la mort de la voisin, sa fille, Marie-Madeleine, décide de parler. Ce sont ses déclarations qui vont permettre au juge de faire la lumière sur cet inquiétant placet. Marie-Madeleine, qui n'a plus besoin de protéger sa mère, raconte à la Reynie ce qu'elle sait. Le placet, qui était enduit de poison, avait pour but de tuer le roi. Une grosse récompense avait été promise à la voisin en cas de succès. Marie-Madeleine rapporte aussi que sa mère et ses complices parlaient d'empoisonner également Mademoiselle de Fontanges, la jeune maîtresse du roi. Mais qui avait commandité ces assassinats? Marie-Madeleine révèle alors que la femme de chambre de Madame de Montespan, Mademoiselle Desœillets, est venue plusieurs fois à l'officine de sa mère. À ces mots, on imagine la stupeur de la Reynie. Comment la Montespan, favorite officielle du roi et mère de plusieurs de ses enfants, aurait-elle, par jalousie, voulu empoisonner le roi et sa maîtresse?
Saviez-vous, madame, que Cato allait chez cette voisin que l'on a brûlée en place de grève il y a un mois? Les caméristes de madame de Montespan passent leur nuit chez les sorciers et occupent leur journée à faire fabriquer toutes sortes de filtres et de poudres. Seriez-vous surpris si je vous apprenais maintenant que Madame de Montespan elle-même s'est prêtée aux cérémonies les plus étranges pour obtenir la place où elle se trouve?
Agnès Walk, avec les révélations de la fille et de la voisin sur la Montespan, l'affaire des poisons prend une autre dimension, ça devient une affaire d'État.
Ah oui, ça devient une affaire vraiment d'État parce que Madame de Montespan est la mère des bâtards de Louis XIV.
Qui ont été légitimés.
Et qui ont été légitimés. Et la fille, mon voisin, savait très bien ce qu'elle faisait, mêlant Madame de Montespan à cette affaire.
D'ailleurs, vous voulez dire que c'est faux? Qu'elle a menti?
Moi, je crois qu'elle a menti.
Ouais, oui. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette thèse.
Voilà.
Hein,
moi, je crois qu'elle a menti. Que Madame de Montespan soit allée éventuellement chez la voisine, pourquoi pas. Que sa femme de chambre, enfin Mademoiselle Desœillets, oui, y ait été, oui, Certainement. Mais au moment où elle aurait pu avoir besoin des services de poison ou de filtre d'amour, son histoire d'amour avec le roi était déjà terminée depuis assez longtemps, ce que les gens ne savaient pas en réalité. Parce que le roi a toujours mis un filet, un écran de fumée pour qu'on ne comprenne pas très bien ce qui se passait. Donc ça, personne ne pouvait savoir.
Mais peut-être restait... qu'elle voulait récupérer son amant, amant.
Non. J'ai montré dans un autre livre que c'est quelque chose à laquelle je ne crois pas. C'est une femme qui est d'abord vraiment une très très grande dame.
Qu'est-ce que vous appelez une grande dame ?
Elle ne s'abaisserait pas à ce genre de choses. Je veux dire, le roi ne veut plus d'elle, bon, bah, elle s'en va. Et c'est même d'ailleurs elle qui l'a poussée dehors. Il y a un moment donné où elle pensait vraiment...
classe.
Elle pensait que sa famille était une famille beaucoup plus relevée que la famille des Bourbons. Oui. Elle a une morgue qui est quand même assez spectaculaire. C'est pour ça que j'aurais tendance à vraiment la défendre. Et puis en plus, elle est quand même prise par une sorte de remords chrétien. Elle a été quand même... C'est un double adultère avec le roi. Elle en a profité, mais bon, je pense qu'il y a un moment donné, elle a finalement une position qu'elle ne perdra jamais, hein, c'est-à-dire qu'elle sera toujours la mère délégitimée, une belle position à la cour. Elle vieillit et il ne faut pas, je pense, la caricaturer en des termes qui la font, je pense, déchoir. C'est d'une certaine manière aussi une âme, enfin une belle âme quand même.
Mais le roi Louis XIV a quand même eu quelques doutes.
Bien sûr, parce que
la reine aussi.
Mais bien sûr, tout le monde. Enfin, je veux dire, quand on vient vous apprendre quelque chose comme cela, on ne peut que douter. Et d'ailleurs, cette affaire des poisons, c'est tellement rocambolesque et c'est tellement incroyable que tout le monde est toujours assis entre deux chaises en se demandant est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce ne sont que des affabulations.
Parce que les accusations de Marie-Madeleine, donc la fille de la voisine, sont très graves. Elle dit que la montée Montespan est venue trois fois, elle a participé à des messes noires, c'est-à-dire elle se serait allongée nue sur une espèce d'autel de messe noire, donc pour le diable, le visage recouvert d'un tissu pour qu'on ne la reconnaisse pas, avec des imprécations sataniques faites par un certain abbé Guibourg, que ça se serait renouvelé donc deux fois. C'est quand même des accusations assez graves.
C'est des accusations extrêmement graves, mais la fille, mon voisin, a bien dit que le visage de cette femme était couvert et qu'on n'a jamais rien su. Alors, on peut aussi en douter. Le roi a été très ennuyé. Il a toujours voulu, d'ailleurs, qu'on fasse silence sur cette affaire. Et c'est au moment où on commence à parler de Madame de Montespan que la chambre ardente est clôturée. Et donc, il demande qu'on arrête tout de suite le procès. Il ne veut pas d'éclat, il ne veut pas que ça sorte. Il veut quasiment étouffer cette affaire pour éviter que sa favorite ou son ancienne favorite ne soit mêlée, que son nom ne soit trop souvent cité, indépendamment du fait qu'elle a fait ou qu'elle n'a peut-être pas fait quelque chose.
Il y a un personnage qui est intéressant aussi, c'est ce lieutenant de l'Araignée, quoi. Il doit être complètement époustouflé, ne pas très bien savoir comment rendre la justice.
Oui, l'Araignée...
Comment enquêter d'abord et rendre la justice ensuite.
Alors, comment enquêter ? Il enquête bien. Il a des méthodes relativement rationnelles. Il essaie de confronter les accusés, il essaie de faire parler une certaine police criminelle en essayant de trouver des preuves. Il y a un aspect quand même qu'il faut lui rendre hommage, de quelque chose qui se veut assez rigoureux. Et puis, il est complètement accablé, très rapidement, au bout d'un an. Enfin, il y a tellement de monde. On lui dit des choses tellement horribles, des choses qui relèvent à la fois du complot d'État, on voudrait tuer le roi, qui relèvent du blasphème, on foule la religion aux pieds, etc. Donc, il est complètement accablé, il ne sait plus très bien. Et finalement, je pense qu'il est content.
Quand ça s'arrête. Merci Agnès Walk. Dans le prochain épisode, justement, nous arrivons à l'épilogue de l'affaire des poisons.